Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Juplin et aujourd'hui, pour le retour des Collimateurs enregistrés en personne, ce qui j'espère s'entend, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Papa-Emmanuel, que les auditeurs réguliers du Collimateur connaissent, puisque vous êtes déjà apparu dans le bunker pendant le confinement pour nous parler de First Blood, le premier Rambo, et vous m'avez ainsi permis de dire tout le bien que je pense, tout comme vous, de cet immense film presque d'auteur et très injustement pris de haut la plupart du temps en raison de la manière dont la franchise est tournée ultérieurement. Je m'emporte et on va pas refaire ce bunker auquel je renvoie par ailleurs les auditeurs qui ne l'auraient pas écouté. Et c'est pour parler donc d'un sujet tout à fait différent que vous êtes ici aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po, mais aussi cadre dans le secteur privé. Vous avez fait carrière dans diverses grandes entreprises du secteur de la défense. Auteur, surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, des Espions de l'Élysée avec votre co-auteur Florent Vadillo, sorti en 2019 chez Taillandier. Donc bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un ouvrage qui parle évidemment de renseignement, comme l'indique son titre, mais à travers un point d'entrée qui permet d'explorer cette galaxie qui est tout à fait subtile en France, avec beaucoup de services différents. Galaxie dont on a déjà un peu parlé dans divers podcasts, notamment celui avec Paul Charon, mais qui nécessite évidemment beaucoup plus qu'une seule émission pour pouvoir la saisir dans toute sa complexité. Alors, ce point d'entrée sur lequel vous vous êtes concentré, c'est la création et la mise en œuvre d'une fonction depuis 2007-2008, qui est celle de coordinateur national du renseignement, fonction poste créée par Nicolas Sarkozy, et qui dit vraiment, je crois, quelque chose des besoins et des difficultés à optimiser, disons, l'efficacité du renseignement en France, mais aussi et surtout des relations entre le renseignement, le secteur du renseignement et le pouvoir politique. Alors, on va évidemment parler de ce qu'est ce poste de coordinateur national du renseignement. Posons tout de suite qu'on va utiliser l'acronyme CNR.
CNR, c'est parfait.
Ça va nous faire gagner pas mal de temps pendant toute l'émission, je pense. Mais, bon, d'abord, ma première question, c'est pourquoi avoir choisi de vous intéresser à cette fonction-là en particulier? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, donc avec votre co-auteur Florent Vadillo, qu'il y avait quelque chose à creuser particulièrement à travers l'apparition et, disons, le développement de ce poste-là, de CNR, de coordinateur national du renseignement?
Sans doute, comme pour Rambo, une affection particulière pour les postes ou les films qui sont mal aimés ou en tout cas méconnus. Le CNR dit beaucoup en fait sur le rapport très ambivalent que peut avoir le politique avec le monde du renseignement. Et à travers le CNR, en fait, on arrive à toucher finalement une des fonctions du renseignement, la fonction stratégique connaissance et anticipation, comment le renseignement contribue ou ne contribue pas à la prise de décision, comment le renseignement peut être aussi finalement installer un rapport de pouvoir entre différentes administrations, entre différents hommes, puisque c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes qui font les institutions. Et c'est aussi finalement l'histoire d'une sédimentation finalement assez lente et une institutionnalisation du renseignement dans la Ve République. Et donc c'est un rapport finalement un peu particulier.
Alors institutionnalisation, on va juste arrêter là-dessus. Ouais. Parce que c'est, effectivement, Il y a une spécificité de la France de ce point de vue-là, c'est que très longtemps, ça a été un peu nébuleux ou un peu tabou, mais aussi, enfin, c'est vraiment le mot que vous avez utilisé, pas institutionnalisé, c'est-à-dire il n'y avait pas de nomenclature extrêmement précise des services de renseignement, notamment dans les textes de loi. C'est arrivé très tard en France, justement à cette période de 2007-2008. Alors, pourquoi, dans quelle mesure est-ce que c'est une spécificité française si on compare aux grands voisins ou aux grands cousins, disons ?
En fait, les différents présidents de la République en France ont eu un regard plus qu'ambivalent, c'est-à-dire que le monde du renseignement, c'est un monde auquel on ne voulait pas toucher. On se sent un peu loin du monde du renseignement, il est sulfureux. Parfois parce que le président de la République estime qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui expliquer finalement le cours du monde, parce qu'il est assez connecté, que son quotidien est fait de remontées d'informations qui lui suffisent. Souvent aussi parce que les services de renseignement ont eu une réputation sulfureuse, de nombreuses affaires, et donc dans l'inconscient collectif, une matière qui était donc du coup à ne pas toucher. Il fallait être loin du renseignement pour éviter, in fine, de pouvoir être éclaboussé par des scandales de Ben Barka au Rainbow Warrior. Le renseignement était finalement résumé à une certaine barbouzerie, ce qui a finalement aussi changé avec le temps, à la faveur aussi d'une médiatisation de ce monde du renseignement, et puis du politique qui s'est petit à petit approprié cette matière, qui n'était pas qu'une matière sulfureuse, mais qui pouvait aussi l'accompagner dans sa prise de décision quotidienne. Et donc, il y a eu, avec la création du CNR, l'institution de bulletins quotidiens d'information.
Alors on va revenir sur tout ça, mais du coup, il faut quand même le dire, donc c'est quoi le CNR ? Il fait quoi, ce CNR ?
Le CNR, il conseille le président en matière de renseignement. Il est donc l'intermédiaire entre des agences de renseignement, services de renseignement, qui ont, comme vous l'avez dit, été institutionnés très récemment, finalement à la faveur de cette réforme du renseignement avec l'arrivée du président Nicolas Sarkozy. On va avoir un premier cercle du renseignement, avec du renseignement militaire porté par la DRM, du renseignement intérieur, avec aujourd'hui ce qu'est la DGSI, la DGSE pour le renseignement extérieur, renseignement économique et financier avec TRACFIN, DNRED pour aussi le renseignement douanier et la DPSD. Donc ce premier cercle est institutionnalisé.
Il va falloir détailler, parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça... Donc ce poste de CNR, il apparaît donc dans tout un mouvement qui a
Exactement.
Été voulu par Nicolas Sarkozy avant qu'il soit président, quand il était ministre de l'Intérieur, qui a été une espèce de Big Bang des services de renseignement. Alors, on va les détailler, je pense, les uns après les autres, parce que c'est utile, mais peut-être... il y a la DGSE qui n'a pas tellement évolué, qui est un organisme. Donc la DGSE, c'est la sécurité extérieure. Ça, c'est un organisme qui est resté relativement stable. Mais en face, il y a tout ce qui relève de la sécurité intérieure. Et là, donc, à ce moment de 2007-2008, on a une grande innovation, un grand changement, qui est la fusion de la DST, donc la Direction de la Sécurité du Territoire, et de ce qu'on appelait les RG, donc les Renseignements Généraux.
Très vieux service de renseignement, les RG, c'est vrai qu'ils vont fusionner, qu'ils vont devenir la DCRI, puis la DGSI. Donc on voit que finalement, à la faveur des attentats de 1995, les différents acteurs qui accompagnent Nicolas Sarkozy ont estimé qu'il y avait eu un problème de coordination et une nécessité finalement de pouvoir réunir des acteurs pour qu'ils parlent, pour qu'ils échangent, pour qu'ils partagent. C'est vrai que quand on fait du renseignement, on a une culture du secret au sein de l'organisation, mais aussi dans son rapport avec l'extérieur. Et donc, à la faveur de ce Big Bang français du renseignement, on crée la DCRI, qui va aussi avoir pour charge notamment la lutte contre le terrorisme sur le territoire national.
Mais c'est intéressant comme truc, parce qu'on entre déjà dans le début du problème, c'est-à-dire... Il y a des services qui fonctionnent pas assez ensemble, en l'occurrence c'est RGDST. Du coup, on va les fusionner pour, en quelque sorte, les forcer. C'est une manière de les forcer institutionnellement à communiquer.
On force un petit peu à chaque fois, en fait, les services de renseignement à parler entre eux. Pour reprendre cette histoire finalement du renseignement, le général de Gaulle a un regard assez lointain sur ce qu'est le renseignement. le président ne prend pas en fait cette fonction-là de coordination sous la Ve République du renseignement. Il y a la création du comité interministériel au renseignement qui est assez lourd, qui ne marche pas. Et quand Jacques Chirac arrive à Matignon, ses conseillers, Monod va du coup prendre à bras-le-corps cette nécessité de coordonner les services de renseignement et va les réunir de façon très régulière pour être informé. À son départ, cette coordination va perdurer au niveau du Premier ministre, puis elle va disparaître. On verra un regard finalement assez méfiant de François Mitterrand en arrivant au pouvoir avec les services de renseignement. Pendant le programme, d'ailleurs, il y avait cette volonté de dissoudre ces polices secrètes, ces polices parallèles. Et finalement, il va y avoir une acculturation aussi d'un président socialiste et de son entourage à la culture du renseignement, une appropriation. Aussi après avec l'affaire Farewell, avec la DST. Et donc, on voit que ça peut être aussi une monnaie d'échange intéressante à partager au niveau international, diplomatique, en l'occurrence pour revenir dans les papiers des Américains après la nomination de quatre ministres communistes. Et puis Michel Rocard va s'emparer du sujet, puisqu'il y a une sorte de désamour et d'abandon de la fonction de coordination en tant que Premier ministre, cette volonté de reprendre du pouvoir dans l'équilibre institutionnel. Il va remettre en place ces coordinations et va reprendre du pouvoir, comme il le dit, là où il n'était pas, et redonner au Premier ministre finalement cette volonté de battre la mesure et de coordonner des acteurs, ce qu'il est dans cette diarchie avec le président, de lien avec l'administration. Les attentats de 95, le président à l'époque, Jacques Chirac, dit « mais il nous faut une coordination ». Il réunit les différents acteurs et dit « maintenant, il faut que vous vous parliez ». Et puis l'arrivée de Nicolas Sarkozy, et pendant sa campagne, avec cette volonté d'hyper-présidentialiser finalement la fonction, il avait voulu mettre en place un comité national de sécurité.
Mais vous voyez, c'est marrant parce que vous venez de nous faire l'histoire sur 50 ans du truc. Et en fait, à chaque fois, vous dites, il y a un coup de collier, etc., vous allez discuter maintenant. Et en fait, puisque chaque président se retrouve à refaire la même chose à chaque fois, c'est donc que ça marche pas. Donc, la question, c'est... Bon, en vrai, dans quelle mesure est-ce que ces services coopéraient ou pas? C'est-à-dire, j'imagine bien que au-delà des rivalités, il y a des rivalités et il y a aussi forcément aussi des... disons, des motivations, j'imagine, institutionnelles à pas forcément vouloir partager les informations, mais... Est-ce qu'il n'y avait pas quand même un minimum de coopération? Et surtout, pourquoi est-ce que ça bute à chaque fois? Quel est le truc qui fait obstacle? Je veux dire, tout le monde, a priori, veut que le territoire soit sûr et que les intérêts de la France sur son territoire comme à l'étranger soient préservés. Donc disons, qu'est-ce qui cloche à chaque fois? Qu'est-ce qui fait qu'on retombe dans ce qu'on appelle souvent la guerre des services, etc.? Qu'est-ce qui fait qu'on retombe toujours dans ces rivalités et ces dysfonctionnements organisationnels dans le renseignement?
Ce qu'il a manqué, c'était une fonction de coordination forte et un lien fort avec le président de la République. Et donc une volonté, à un moment, d'institutionnaliser ce rapport entre des services de renseignement qui produisent, mais qui doivent s'insérer du coup dans une politique globale au service de la prise de décision. C'était pas le cas avant finalement. Et d'ailleurs, les services de renseignement en ont pâti pendant très longtemps. Ils cherchaient des interlocuteurs à l'Élysée, ils cherchaient des interlocuteurs à Matignon pour justement démontrer d'une plus-value, de deux avoir sans doute plus de moyens et contribuer finalement à la vision stratégique que pouvait avoir l'État français. Et donc tout le monde regrettait cette absence de coordination qui arrivait en 2008, et pour reprendre du coup cette fonction est très simple, c'est-à-dire que c'est alimenter quotidiennement le président avec les différentes notes qui sont produites par les différents services de renseignement, essayer d'en sortir la substantifique moelle et d'identifier des sujets un petit peu chauds du moment qui accompagnent aussi l'agenda du président dans ses prochaines rencontres. C'est également mettre en place un plan national d'orientation du renseignement, c'est-à-dire d'éviter que les services de renseignement tournent à vide ou s'auto-alimentent, s'auto-allument, mais qu'ils s'insèrent finalement dans une politique nationale du renseignement où chacun a un rôle, chacun a un espace, chacun a un périmètre, et chacun du coup vient compléter à chaque fois une vision plus globale qui le dépasse, et chaque vision vient s'enrichir. Ça manquait en fait avant.
Ouais, mais il y a un truc intéressant et qui est très frappant là-dedans, c'est que cette fonction, donc, qui n'existait pas en France, Elle a une espèce de mimétisme ou de jeu de miroir avec une fonction qui existe dans le modèle américain, qui pour le coup est une fonction assez connue, qui est la fonction du DNI, donc le Director of National Intelligence, qui est quelqu'un de très puissant parce que, on va revenir dessus, mais c'est quelqu'un qui a un accès au président très important dans le système américain, parce que c'est lui qui fait les President Daily Briefings, c'est-à-dire que c'est lui qui donne au président des États-Unis ce qu'il a à savoir et ce sur quoi il a statué au jour le jour. Donc, c'est une institution très forte dans l'appareil américain, et quand on voit cette institutionnalisation du coordinateur national du renseignement, on peut pas s'empêcher de se dire qu'ils ont un peu copié le modèle américain, mais en même temps, il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes logiques aussi qu'aux États-Unis. Donc, comment comprendre cette innovation française? Dans quelle mesure est-ce que c'est essayer de calquer un truc qui fonctionne aux États-Unis? Et dans quelle mesure est-ce que ça pêche? Parce que mine de rien, c'est différent, quoi.
En fait, c'est vrai que si on revient sur la genèse de la création du CNR, il y a la volonté du président Nicolas Sarkozy pendant l'élection présidentielle et dans son programme de créer en fait un conseil national de défense et de sécurité nationale, qui va échouer finalement face à la révision constitutionnelle.
Oui, un conseil de sécurité nationale, c'est la traduction exacte du National Security Council aux États-Unis.
Exactement. Mais donc, du coup, ça vient complètement choquer la diarchie et les équilibres institutionnels français. Quel est le rôle du Premier ministre, du coup, dans ce conseil? Est-ce qu'on peut avoir, du coup, un rapport direct entre des ministres et un président? Que devient le SGDSN, le secrétaire général à la défense nationale et à la sécurité? Donc, ça venait complètement en rupture avec, finalement, l'histoire et les concepts de la Ve République. Cet échec est acté, et donc on va créer un CNR et une communauté nationale du renseignement, et avec les différents services dont on a évoqué avant la complémentarité, mais également un conseil national du renseignement pour que le président puisse réunir les différents directeurs d'agences de renseignement avec son CNR pour pouvoir faire un point sur les menaces et les anticiper. Évidemment, il y a une histoire qui est un modèle, qui est celui américain, mais en même temps qu'on institutionnalise le CNR, donc un conseiller qui épaule le président, on va aussi faire une délégation parlementaire au renseignement, faire en sorte que il y ait une sorte de transparence avec même une transparence entière avec la représentation nationale, et faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre services de renseignement, le monde du secret et le Parlement, le monde de la parole et de l'ouverture et de la transparence. N'a pas été chose aisée, mais ça se met en place, création des cercles de renseignement. Et donc on voit qu'il y a aussi de l'Académie du renseignement une volonté de créer une dynamique et un vrai élan qui est forcément un peu calqué sur ce qui peut se passer ailleurs, mais on avait aussi un vrai retard sur le sujet, puisqu'il y avait toujours cet imaginaire des services de renseignement un peu louche. Finalement, après cet élan, il va y avoir un désintérêt. Alors que aux États-Unis, il y a une vraie proximité entre le président et les services de renseignement, avec ce daily brief. En France, ça tient beaucoup à la personnalité du président, est-ce qu'il s'intéresse ou pas à cette matière-là, et puis à la personnalité ou sa proximité avec, finalement, le CNR.
Alors, on va en parler tout de suite, parce que c'est vraiment ça, disons en quelque sorte, le levier de ce poste de coordinateur national du renseignement, et puis aussi de tout ce qu'on est en train d'écrire, c'est-à-dire c'est sa proximité et son rattachement ou pas à l'Élysée. Et ce qui est intéressant, et ce que vous détaillez très bien dans le livre, c'est en fait en quelque sorte le chemin de croix du premier de ces CNR, qui a été Bernard Bajolet, qui est un ambassadeur à la base, donc qui n'est pas du tout quelqu'un forcément qui est familier de ça, c'est-à-dire ni de l'Élysée, ni des services de renseignement. Alors, mais du coup, voilà, posons la question. Pourquoi est-ce que c'est si important, dans un premier temps, de vraiment rattacher à la personne et même aux locaux de l'Élysée cette fonction de coordinateur du renseignement? C'est des passages qui sont très drôles dans l'ouvrage, puisqu'on voit, notamment avec beaucoup d'entretiens avec les CNR successifs, que ça tient vraiment à rien, quoi. Certaines des choses de l'État, ça tient à est-ce que on est dans les bons locaux à l'Élysée ou est-ce qu'on est un peu plus loin ? Exactement. Est-ce qu'on a des adresses mail en @elysee.fr ou pas ?
Il y a une géographie du pouvoir, vous avez raison.
Ouais. C'est vraiment le côté, moi j'aime beaucoup ça, c'est vraiment le côté cour de Versailles, quoi. On cherche à être aussi près que possible du roi soleil parce que c'est de lui qu'émane le pouvoir, quoi. Mais on a vraiment l'impression que c'est ça un peu l'enjeu en créant cette fonction de CNR, qu'il faut être pas trop loin du roi soleil parce que sinon la fonction va être, va pas être si puissante que ça, quoi.
Il faut déjà être au château. Et ça n'a pas été aisé pour le CNR, puisque vous l'avez dit, il arrive, mais il n'est pas le bienvenu, en fait, hein, la création du CNR. Le CNR doit être très vigilant, notamment au moment de la rédaction du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, dans lequel on annonce finalement la création du CNR. À chaque fois, il faut se battre, mot après mot, pour que la fonction reste, pour que son périmètre soit un périmètre assez étendu, pour avoir un minimum de contrôle et instituer un premier rapport de force avec aussi des services de renseignement qui ne le voient pas forcément non plus comme une bonne chose. Et dans la barque élyséenne, il y a déjà un chef d'état-major particulier du président de la République qui l'accompagne sur ses grandes décisions et sa relation avec le ministère des Armées, qui a aussi une proximité avec la DGSE. Et vous avez un conseiller diplomatique qui, lui aussi, accompagne le président sur la compréhension des grands équilibres mondiaux. Et donc, ces deux conseillers vont arriver un troisième conseiller dans la barque qui va forcément grappiller un petit peu de leurs prérogatives, qui va rentrer en concurrence avec eux pour souffler à l'oreille du président en dernier. Et donc, il n'est pas le bienvenu. Et donc, le CNR va devoir se battre pour avoir, si ce n'est juste des locaux, en fait, à l'Élysée. Il sera trimballé de bureau en bureau. On lui trouvera après des locaux en dehors de l'Élysée, et ce qui, finalement, l'éloigne du pouvoir. Au début, d'ailleurs, c'est dit par général Gomard, hein, qui accompagne la création de Bajolet, qui dit « mais on était entre la photocopieuse et les toilettes ». Aussi une incompréhension, quand on a cette ambition très forte, hein, au début du mandat de Nicolas Sarkozy, de créer une fonction qui doit contrôler, qui doit donner de l'ampleur aux services de renseignement, d'avoir autant de mal à s'insérer finalement dans le château et avoir des moyens, des ressources humaines, une adresse qu'on lui refuse, mail, et donc tout ça fait que la comparaison s'arrête là avec les États-Unis. Première rencontre entre Bajolet et son équivalent, le DNI américain. Le DNI américain lui demande la question « Mais vous êtes combien ?» Il fait 15. 15 000, mais c'est énorme, amazing. Non, 15. 1500, waouh, c'est déjà pas mal. Non, on est 15. Et Bajolet raconte ça en disant « Et je comptais encore nos chauffeurs et les secrétaires dans le staff. » Et donc on voit qu'il y a il y a un décalage de moyens. Et donc très rapidement, finalement, une frustration va se créer pour le CNR, c'est-à-dire comment s'inscrire avec des conseillers qui ne le voient pas comme quelqu'un qui est le bienvenu, qui va s'émanciper, qui va chercher à s'émanciper très rapidement pour avoir un vrai pouvoir, pouvoir peser sur les décisions présidentielles d'acheter ou pas des drones américains, pour avoir un point de vue sur des grandes crises internationales, notamment avec ce qui se passait avec la Russie, qui impose sa signature sur des notes communes. Et donc, Jolet va aller au feu. Finalement, ça va être le premier soldat qui va cranter la fonction, qui lui survivra. Donc ça veut dire que malgré les difficultés, la fonction a existé. Et puis après, ça sera des combats successifs, parce que c'est pas aisé, aussi dans le rapport avec les différentes agences de renseignement qui voudront toujours avoir un accès direct au président et bypasser le CNR, en mauvais français.
Back on the field, it's time to go to the match.
Donc vous parliez de cette... Enfin, mine de rien, à la fois d'un besoin qui a été exprimé par les services de renseignement d'avoir un interlocuteur, et en même temps, d'une certaine mesure, ils peuvent pas s'empêcher de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais ça pose la question qui est celle qu'on a déjà un peu abordée par la proximité avec le président, mais c'est la question de l'efficacité de cette fonction. À quel point la fonction de coordinateur national du renseignement a des dents parce que c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est que en fait le CNR est rattaché au président, ce qui veut dire qu'il n'est pas rattaché au ministère. Or, c'est un truc que vous détaillez très bien, mais les différents services de renseignement, ils tirent leur budget et leurs moyens des ministères. Donc on se retrouve avec cette fonction intéressante, ambitieuse, qui en plus a un modèle prestigieux américain de CNR, mais qui en quelque sorte a pas les leviers effectifs et structurels pour museler, pour serrer la bride aux services de renseignement, et qui du coup se retrouve obligé de... j'ai pas envie de dire de le jouer au bluff, mais enfin si, de jouer sur d'une sorte d'autorité apparente pour pallier le manque de, disons, de levier structurel d'autorité sur ces services.
C'est un des premiers frottements d'ailleurs hein, pour Bernard Bajolet, c'est de dire mais moi je vais apparaître déjà d'une dans l'organigramme de l'Élysée, au même niveau que le chef d'état-major particulier et le conseiller diplomatique, et donc je veux être complètement intégré à la mécanique élyséenne. Sauf que ça se passe jamais comme c'est prévu. Il va être rattaché au secrétariat général du gouvernement et donc au Premier ministre, administrativement parlant. Et ça sera une première vexation parce que ce n'était pas du tout dans l'ambition du poste. D'ailleurs, il menacera de donner sa démission à ce moment-là. Et in fine, il continuera pour essayer de vraiment faire exister la fonction. Mais donc, on voit que cet équilibre est un peu particulier et que sans doute, il faut un peu des deux mondes. Il faut être proche du président, avoir une vraie proximité, une intimité. Et il faut aussi que le président joue le jeu. C'est d'ailleurs quand James Clapper prendra la fonction de DNI aux États-Unis, c'est ce qu'il demandera à Obama. Il lui dira... Le poste était créé en 2004, connaissait aussi des errements aux États-Unis, même si on peut le voir comme un modèle, souvent bypassé par la CIA, en concurrence, d'une relation très proche avec le président, de grandes difficultés, puisque le DNI avait démissionné, parce qu'il voulait nommer en fait les agents de la CIA en poste à l'étranger. Concurrence, arbitrage présidentiel, arbitrage en faveur de la CIA, le DNI du coup est désavoué, démissionne. Et donc on propose à James Clapper de prendre la fonction, qui va refuser au début en disant « Waouh, non, je serai pas ce pompier-là ». Et puis il va réfléchir et puis il va poser ses conditions finalement au président Obama en lui disant « Si tu veux un conseiller, eh ben, il faut que tu respectes ce conseiller et qu'il soit proche de toi. Et donc quand tu discuteras avec la CIA ou les autres services, il faut que je sois là. Faut que tu m'écoutes et que tu me donnes une autorité. Parce que si je n'ai pas cette autorité-là par rapport aux autres, bah, je serai démonétisé et ils passeront toujours par toi. Et deuxièmement, je veux avoir la capacité de pouvoir organiser comme je veux mon administration et d'avoir des leviers pour pouvoir avoir ce que vous appelez des dents et donc être respecté. C'est ce qui va se passer. Il restera 6 ans, donc il y a aussi pérennité dans l'action qui fait que bah, ça va être effectif. Aussi, du coup, une possibilité de...
Mais en France du coup, il n'y a pas cet équivalent.
Il n'y a pas cet équivalent parce qu'on le voit, follow the money. Si vous avez l'argent, vous avez le pouvoir. Et c'est ce que vous dites. Il faudrait que le CNR puisse avoir un budget. On lui a d'ailleurs refusé d'avoir un regard sur les fonds spéciaux. Ça a été un combat de haute lutte.
Donc les fonds spéciaux, c'est ces espèces de fonds discrétionnaires pour des objectifs qui ne sont pas forcément déclarés des divers services de renseignement.
Exactement. Et donc, on voit que c'est compliqué parce qu'il faut trouver le juste équilibre entre cette proximité présidentielle, mais aussi être respecté par les services de renseignement, et ça passe par le budget.
Les budgets qui sont donc les prérogatives des ministères.
Exactement. Et donc... le CNR sera tiraillé entre la volonté aussi d'exister, d'être opérationnel, et ce qu'on va lui rejeter à chaque fois sur les premières crises, prise d'otages, etc. Le CNR doit mettre un pied dans la porte pour pouvoir exister et être dans la même salle de crise Mais parce qu'en fait, le métier n'est pas chez lui. Il est à la DGSE, les infos peuvent revenir de la direction du renseignement militaire, il peut y avoir une continuité avec le territoire national, avec la DGSI, et donc, il va être marginalisé aussi dans la gestion de l'urgence. Il devra trouver lui-même son propre rythme, sa propre fréquence, et de trouver le bon tempo. Or, on le voit, pour être respecté, il faut avoir un impact. Et une proximité avec le président, ce que jouera du coup Didier Lebré à un moment où il...
Donc Didier Lebré qui est un des CNR successifs.
Ouais, qui est un des CNR et qui va jouer de cette proximité avec le président François Hollande, proximité personnelle, et qui imposera aussi des coopérations entre services, notamment avec un des enjeux majeurs du livre blanc de François Hollande, qui est un principe directeur du livre blanc, qui est la mutualisation. Vous disiez que parfois ça marche, parfois ça marche pas. En l'occurrence, on avait du mal à faire en sorte que la mutualisation marche bien. Et le CNR, en jouant de sa proximité personnelle avec le président, mettra dans la balance la création d'une agence technique du renseignement mutualisé. Elle commencera à faire une note. Et finalement, l'existence de cette note même imposera au service de commencer à investiguer un peu plus en profondeur le chantier de la mutualisation et les uns prêtant aux autres, mettant à disposition des données pour recréer un élan, pour éviter que cette menace-là d'un proche du président, en plus CNR, ne vienne à s'exécuter.
Oui, d'accord. Donc, c'est en fait, il faut un CNR suffisamment puissant, mais puissant personnellement par oui. par sa personne et par sa personnalité et par sa familiarité avec le président, pour en quelque sorte faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre et faire bouger les services, quoi.
En l'absence de pouvoir clairement établi, vous l'avez dit, c'est un coup de bluff, on ne monte jamais ses cartes, on est en plus dans le monde du renseignement, et donc il faut à un moment jouer d'autorité, jouer des coudes, jouer du menton, on peut l'appeler comme on veut, mais il faut pouvoir dire « je suis celui qui susurre aussi à l'oreille du président, je le vois régulièrement », même si c'est pas vrai. On s'en rend compte d'ailleurs, en faisant l'ouvrage, on était surpris de voir qu'il y a des CNR qui ont vu une fois ou deux le président de la République. On voit que aussi cette proximité physique un petit peu à l'extérieur du château est vue comme vous ne faites plus partie de l'équipe présidentielle. Un des CNR, le préfet Alain Zabulon, qui a fait beaucoup pour cette fonction, avec notamment la loi sur le renseignement, la relation avec le Parlement, à cette image, il était directeur de cabinet adjoint du président François Hollande. Quand il est nommé CNR, on lui fait un pot de départ. C'est-à-dire, on lui dit « c'était vraiment super, à bientôt ». Comme s'il disparaissait complètement du panorama, alors qu'il est juste une rue après. Et donc, c'est assez symptomatique, finalement, des lieux de pouvoir. Vous le disiez, hein, une architecture du pouvoir physique, de proximité physique, aussi institutionnelle, c'est-à-dire où est-ce qu'on est dans un organigramme, et évidemment, personnel, c'est qu'est-ce qu'on représente pour le président, et est-ce que le président joue le jeu de la proximité. Et en fait, chacun va essayer de tenir, malgré tout, le CNR dans une sorte d'agent administratif, un peu hybride, pas un conseiller politique, parce que ça serait dangereux, d'ailleurs le président Hollande le dit dans le livre. Je pouvais pas enlever le CNR, parce que un président ne cède pas de prérogatives, je devais le garder, mais l'équilibre des pouvoirs, la séparation des pouvoirs m'imposait d'avoir un CNR finalement un peu distant avec le monde opérationnel, et donc plus agent administratif. Alors qu'aux États-Unis, cette fonction administrative va aller avec un regard sur les filières, les carrières, sur les recrutements, va aller aussi avec l'évaluation des programmes d'armement de renseignement, va aller très loin même sur la coopération, l'intégration et la mutualisation des données qui vont être portées par le CNR. Aujourd'hui, le CNR commence à prendre ces fonctions-là. On peut s'interroger aussi sur focus qui est donné désormais au CNR, puisqu'on lui a adjoint deux nouvelles lettres avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui est la lutte contre le terrorisme. Et donc, est-ce que cette lutte contre le terrorisme ne va pas absorber les cœurs et les âmes des services de renseignement à une fin unique ?
Ouais, mais alors, juste restons là une seconde sur... puisqu'on a bien compris qu'en l'absence, en quelque sorte de pouvoir dans l'organigramme, ça dépendait de ces CNR. Parlons un peu de qui ils sont, c'est-à-dire parce que leur profil dit quelque chose de cette fonction, elle dit quelque chose du renseignement, c'est-à-dire qui ont choisi. Alors on a dit que on a eu le premier était un ambassadeur, donc Bernard Bajolet, On parlait à l'instant d'un préfet, Alain Zabulon.
Ouais.
En quelque sorte, comment est-ce qu'on les choisit, ces CNR? Est-ce qu'on les choisit par proximité personnelle? Et si on les choisit aussi pour leur fonction? Donc, quelles sont les logiques qui président au choix d'un CNR?
Toujours très compliqué de pouvoir dire comment ces 6 CNR ont été choisis et ces fonctions de leur personnalité.
Il y en a eu 6 depuis le début de la création.
Ouais. Fonction de leur personnalité, fonction du moment aussi. Est-ce que les relations sont complexes avec les différents services de renseignement? Le premier, ça a été un bon connaisseur finalement de cet arc de crise qui se dessinait, un bon connaisseur du Moyen-Orient. Était en poste en Algérie.
Donc Bernard Bajolet, exactement. Ancien ambassadeur de France à Alger, qui est une très très belle ambassade dans le corps diplomatique.
Effectivement, et donc qui sera identifié comme celui qui peut porter cette ambition-là. Il va monter son équipe avec le général Gomard, hein, qui le secondera. Il sera très attentif notamment à la rédaction du Livre Blanc et des premiers recrutements. Et donc quelqu'un qui connaît l'arc de crise qui menace la France, aussi parce que grand serviteur de l'État, et puis on se dit aussi, à demi-mot, finalement il est compatible d'un chef d'état-major puissant et d'un conseiller diplomatique puissant. C'est mal connaître l'individu, puisqu'il y aurait une volonté d'émancipation. Et d'ailleurs, il le raconte dans l'ouvrage, dans un des premiers rapports de force qu'il aura avec ses deux autres conseillers, il entendra « il commence à nous échapper ». Et donc, c'est toute l'ambivalence du choix d'un président, mais aussi de son entourage, d'une personne qui doit avoir de l'influence et des connaissances, mais qui doit être aussi suffisamment discrète pour ne pas faire de l'ombre. Il y aura des rapports très compliqués de Bernard Bajolet avec les services de renseignement, parce qu'il voudra être très intrusif, selon certains, pour pouvoir vraiment être aux manettes. Et donc, avec son départ, on va nommer quelqu'un de plus rond, avec le préféré Ange Mancini, qui va...
Alors, Ange Mancini, c'est le deuxième, et c'est un cas très intéressant aussi, parce que c'est vraiment un flic.
Ouais.
C'est...
Qui vient du terrain.
Ouais, et qui est par ailleurs proche de... celui dont on a beaucoup parlé en des termes très sulfureux, mais qui est Bernard Squarcini, un des flics de Nicolas Sarkozy. Enfin, il y en a un certain nombre. Mais du coup, Ange Mancini, c'est-à-dire, c'est intéressant parce que ça montre toute l'hybridité de ce poste de renseignement. C'est-à-dire, à la fois, on a besoin de quelqu'un qui a des compétences diplomatiques, puis en même temps, juste après, le balancier s'inverse et on tombe sur quelqu'un qui, au contraire, a des compétences de renseignement intérieur, de procédure pénale, qui est un flic qui est parti du terrain, quoi.
Ouais, un préfet donc qui connaît bien l'organisation territoriale de la France pour ses gestions de crise, qui connaît bien le terrain et qui est aussi un caractère plus rond et qui doit refaire la paix avec des services de renseignement, s'insérer de façon beaucoup plus souple.
C'est-à-dire, une fois que ça a été établi par Bernard Bajolet, ensuite on peut refaire ami-ami, quoi.
C'était finalement dans les gènes de l'institution. Quand on arrive, il faut pousser les meubles, essayer de trouver des pièces pour les mettre. D'ailleurs, ça n'a pas été évident. C'est de faire en sorte que le vote personnel puisse être accueilli dans la crèche du personnel de l'Élysée. Enfin, c'est des petits détails, mais ça veut dire beaucoup finalement sur... on peut avoir à un moment une volonté présidentielle, mais derrière, ça se décline en actions très concrètes. Et c'est un parcours du combattant pour s'inscrire.
Mais c'est la géopolitique des places de parking dans toutes les entreprises, dans toutes les institutions. C'est d'une importance.
Sociologie des organisations. Très intéressant. Et donc, à partir de ce moment où forcément ça ne pouvait être que conflictuel, parce qu'il fallait s'imposer, il fallait exister, la présidence choisit finalement quelqu'un de plus rond pour faire en sorte que l'institution perdure. S'installe, on continue les bulletins quotidiens pour le président de la République, on continue le lien avec les services de renseignement pour qu'ils produisent finalement de l'information pertinente, puisqu'on les connaît bien, ça se passe beaucoup mieux, et donc il y a finalement une inscription dans le temps un peu moins conflictuelle, plus paisible, qui fait que aussi, ce sera aussi l'héritage du coup du préfet Mancini, la fonction va perdurer. D'ailleurs, ce profil-là fera que d'une nomination de Nicolas Sarkozy, il restera CNR, même sous le président François Hollande, et il sera après remplacé par un autre préfet. le préfet Alain Zabulon,
mais qui lui aussi a une proximité, en tout cas institutionnelle, avec François Hollande, puisqu'il a été directeur adjoint de son cabinet.
Préfet de Corrèze.
Préfet de Corrèze.
Donc, okay. C'est la terre des présidents.
La porte d'entrée de tous les pouvoirs de la Ve République.
Il le connaît depuis longtemps, du coup, depuis la Corrèze. Et effectivement, il y a une proximité. Il y a la volonté de garder l'institution et d'avoir quelqu'un qui se rapproche, auquel on peut avoir entièrement confiance, qui, quand il était directeur de cabinet, suivait aussi ces sujets-là, suivait les sujets de sécurité intérieure, de renseignement, et qui, tout naturellement, prend ses fonctions de coordinateur national du renseignement, fera une loi sur le renseignement en 2015, donc qui aura un vrai dialogue avec le Parlement, avec une première loi qui vient aussi donner un cadre légal pour l'action des services de renseignement, aussi un cadre de protection de l'action des agents de renseignement, et donc qui sera une loi et qui est une loi vraiment fondatrice pour les différents services de renseignement. Il va vivre aussi des grandes crises, les premiers départs pour la Syrie, le suivi des revenants, et donc il va avoir aussi un rôle très aussi lié avec, comment dirais-je, puisqu'il a été très impliqué aussi dans la politique de la ville, et donc il va avoir un regard aussi sur la réalité des menaces qui pèsent sur la France, et il va essayer d'avoir une approche aussi très interministérielle, s'intéresser aussi beaucoup à l'intelligence économique, ce que feront tous les CNR finalement avec plus ou moins de succès, c'est un peu compliqué, mais donc une vraie aussi continuité dans l'action et un vrai leg.
Bon, alors ensuite c'est Didier Lebret, donc ouais. Qui est lui un proche personnel de François Hollande. Donc on passe de la proximité institutionnelle à la proximité personnelle. C'est quoi, même logique ou...
D'avoir quelqu'un de proche, d'avoir quelqu'un qui ne vient pas finalement des services de renseignement, donc pour avoir un acteur indépendant, ça a été aussi un des vrais sujets, je crois, autour de sa nomination. Mais pas quelqu'un qui venait de la DGSE, quelqu'un qui venait de la DGSI, on voulait quelqu'un qui venait d'ailleurs. Il avait monté la cellule de crise au ministère des Affaires étrangères. Donc il y avait déjà cette notion de coordination, d'agrégation d'informations. Il mettra en place aussi une vraie diplomatie du renseignement, puisqu'il a ça dans les gènes. Mais donc après un préfet, c'est un diplomate qui reprend les rênes. Jamais de militaire, parce qu'il y a déjà un militaire à l'Élysée, chef d'état-major particulier. Et
ça ferait beaucoup d'étoiles sous le même toit, c'est ça ?
Oui, effectivement. Et donc Didier Lebret, lui, va vivre aussi les attentats et va avoir aussi cette volonté de pouvoir recréer des liens aussi avec l'interministériel et notamment tout ce qui est prévention dans la délinquance, articulation avec aussi les politiques. Du coup de prévention, et il mettra en place aussi des mécanismes de coordination au niveau international avec le Club de Paris, où les différents CNR peuvent échanger, européens, peuvent partager, peuvent faire des retours d'expérience, peuvent accompagner du coup lors de l'organisation de grands événements, des préparations pour faire en sorte, notamment à l'époque c'était les Journées mondiales de la jeunesse, qu'elles puissent se préparer dans le meilleur cadre. Donc on commence à mettre en place un partage d'informations. On donne jamais du renseignement, on l'échange, ou on crée du coup des instances pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse être partagé, anticipé.
Alors il nous en reste deux. Donc c'est
Yann Jouneau qui prend le poste aussi parce que Didier Lebret est candidat pour une élection des députés d'étrangers, et Yann Jouneau prend le poste et après c'est l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron qui dans son programme présidentiel dit qu'il veut mettre en place une task force contre le terrorisme. Donc ça va vraiment structurer un des aspects de son programme. Et quand il arrive en poste, il crée la Coordination nationale du renseignement, en y adjoignant finalement la lutte contre le terrorisme. Il crée le CNRLT. Finalement, il ajuste le CNR avec ces deux lettres en les focalisant sur la lutte contre le terrorisme. Encore trop tôt pour savoir si c'était une bonne chose. Il lui redonne un petit peu de ressources aussi opérationnelles pour faire des analyses. Et puis il nomme surtout un préfet qui a fait ses armes dans le monde du renseignement, Pierre Bousquet de Florian, qui a été patron de la DST, donc, qui revient dans un moment un peu particulier, d'un CNR à qui on redonne un petit peu de pouvoir, et surtout, parce que c'est aussi ça, les histoires d'hommes, qui connaît le milieu, et qui est nommé avant le nouveau DGSE, le nouveau DGSI, qui est donc à une antériorité, et donc une proximité, en tout cas perçue, avec le président de la République.
Ça fait 3 ans qu'il est en poste maintenant, ce qui est assez rare en fait pour ce poste. C'est assez rare, il y a à peu près que Bernard Bajolet qui est resté aussi longtemps à ce poste. Disons, comment est-ce qu'il évolue ce poste ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait dire qu'il a trouvé sa place, enfin, dans cet écosystème du renseignement ? C'est-à-dire, est-ce que, c'est quoi, ça fait plus de 10 ans maintenant ? Est-ce que 10 ans, ça suffit pour donner sa place au coordinateur national du renseignement ?
Je trouve qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et c'est Alain Zabulon qui disait que c'est compliqué de dompter des fauves, en fait. Et aujourd'hui, il est pleinement inscrit dans le paysage institutionnel. On sent aussi l'Académie du renseignement vraiment installée.
L'Académie du renseignement, c'est cet organe de formation qui a été créé en même temps, donc dans cette vague de 2007-2008, pour former les cadres du renseignement.
Alors au début, les agents venaient sous alias, c'est-à-dire qu'on ne savait pas à qui on parlait au sein de l'Académie du renseignement. Quand vous étiez de la DRM ou de la DGSE, vous parliez à Lucas, mais finalement c'était un alias. Aujourd'hui, il y a des vrais échanges, il y a un échange culturel qui est indispensable en fait. Si vous voulez que un agent de la DGSE comprenne ce qui se passe pour un agent du renseignement douanier, ils doivent discuter entre eux. On doit comprendre à quel moment on peut être dans la complémentarité et donc faire des actions communes. C'est un des vrais défis. Et donc, cette Académie du renseignement est importante. Au même titre que la délégation parlementaire au renseignement. Et le CNR, aujourd'hui, a vraiment ce rôle de pouvoir essayer de créer des environnements d'échange, de partage.
De chapeauter toutes ces institutions transversales qu'on essaye de multiplier, quoi.
Pas qu'on essaie de multiplier, il essaie de donner une colonne vertébrale à l'action forcément particulière de services de renseignement qui ont leur agenda, qui voient la menace par leur prisme à eux. Et donc, c'est un acteur qui doit englober tous ces prismes très particuliers pour essayer de leur donner un cadre d'action commune et pour essayer d'éviter qu'il y ait un trou dans la raquette. Un CNR, c'est quelqu'un de très utile quand il faut, essayer de détecter si on n'est pas en train de perdre de vue une menace au profit d'une autre. Est-ce qu'on n'a pas désarmé à l'Est en regardant trop la menace terroriste ? Est-ce que le renseignement économique et financier est bien perçu ? Est-ce que l'ingérence de puissances étrangères en France est correctement adressée ? C'est tous ces sujets-là, finalement, que permet le CNR. C'est d'avoir une vue un peu plus panoptique, à 360, alors que chacun navigue dans sa ligne d'eau, ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils ont des missions très claires auxquelles ils doivent s'attacher. Et donc, il doit battre la mesure, t'as un thaumaturge, il doit être un chef d'orchestre, on peut prendre toutes les images, mais il est nécessaire et indispensable. Et oui, il a fallu 10 ans, mais finalement, à l'échelle de notre République, c'est pas énorme. On peut se satisfaire ou être inquiet du temps qu'il a fallu pour l'installer. Mais en tout cas, on le voit, c'est un objet administratif un peu non identifié, très particulier, qui a sans doute encore des marges de manœuvre hein, pour les prochains réformateurs et d'autres pans d'action à acquérir. En regardant à travers l'histoire de la Ve République et du balancier qu'il y a eu entre président et Premier ministre, en regardant du côté des États-Unis, on peut aussi voir des choses qui sont positives comme d'autres qui sont négatives. Mais en tout cas, on le voit, la pérennité dans l'action et aussi lui donner des outils très concrets, c'est utile pour faire en sorte que, d'une, le renseignement ne soit pas perçu que comme une matière fissible, dangereuse à manipuler. C'est au contraire quelque chose de noble. Et qu'en même temps, il faut que ça soit efficace, puisqu'il y a des moyens considérables qui sont donnés depuis 3 LPM. C'est devenu une priorité.
Donc 3 lois de programmation militaire.
Pardon, effectivement, 3 lois de programmation militaire. C'est devenu une fonction stratégique, connaissance et anticipation. Des moyens très importants dans le numérique, la cyber, des capteurs aussi souverains qui ont été acquis par la France. Que ce soit des satellites d'observation, d'écoute, enfin plein de moyens, du recrutement. C'est quand même un des seuls endroits où on recrute aujourd'hui dans l'administration avec autant de volonté. Et donc, il faut un cadre pour faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction.
Ouais, mais alors, au moment donc de faire ce bilan, donc là on vient de faire un bilan en quelque sorte organisationnel, quoi, de 10 années de cette fonction de CNR. Si on essaye de faire un bilan opérationnel, c'est-à-dire il y a un grand truc qui s'est passé depuis plus de 10 ans, c'est un poste qui se trouve en première ligne face à ce qui touche le renseignement depuis les années 2010, c'est-à-dire la multiplication des attentats, très clairement. Parce qu'en fait, si on fait le bilan, il y avait eu une vague effectivement dans les années 95-96. Qui a d'ailleurs fortement, vous l'avez dit tout à l'heure, fortement marqué les acteurs qui étaient en poste à cette époque-là, qui se sont retrouvés ensuite dans l'entourage de Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que ça a été créé. Mais si on fait le bilan, donc la fonction est créée 2007-2008, mais dès les premières années de la fonction, il y a d'abord les attentats de Mohamed Merah en 2012, puis il y a la succession d'attentats de 2015, évidemment. Et c'est une fonction qui, donc, est censée coordonner l'action de ses services de renseignement, qui, dans une certaine mesure, se trouve face à des échecs. Alors, on peut débattre de dans quelle mesure c'est des échecs et des dysfonctionnements, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a un attentat, je veux dire, on le voit jusqu'à plus soif, c'est une espèce de serpent de mer dans les médias, que les services ne coopèrent pas assez, et qu'il faudrait que ça échange plus d'informations, c'est le truc qui revient en permanence. Donc, en sachant que c'est précisément l'objet de cette fonction, d'échanger et de coordonner tout ça, comment est-ce qu'elle a encaissé, en quelque sorte, cette succession d'événements qui sont forcément, à un certain niveau, au moins perçus comme des échecs?
Je crois que c'est Jean-Jacques Urvoas, quand il était garde des Sceaux et au moment de la création du bureau du renseignement pénitentiaire, disait « on ne parlera que de vos échecs et jamais de vos victoires ». Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de pouvoir faire un constat sur une matière qui est confidentielle et à la faveur de ce que vous venez d'évoquer. Évidemment, il y a eu des attentats, il y en aura sans doute d'autres et c'est tragique. Malgré tout, la fonction de coordinateur du renseignement ne peut pas être vue qu'à l'aune de ces événements tragiques. Il doit être vu, évidemment, à l'aune de ce que fait le président du renseignement. Et je pense que c'est ça le défi. On est aujourd'hui dans un temps de l'immédiateté, très court, aux réseaux sociaux se confrontent à des images perpétuellement renouvelées sur les chaînes d'infos continues. Et est-ce que le renseignement, du coup, est démonétisé par rapport à cette information permanente? Est-ce que le président s'appuie sur des analyses sur le long terme qui permettent d'anticiper, de comprendre, d'avoir différents scénarios de compréhension du monde qui évolue? Et je crois qu'aujourd'hui, le CNR permet ça. Le CNR permet, en travaillant dans l'ombre, d'organiser des groupes de travaux, d'organiser le décloisonnement, la rencontre entre différentes cultures administratives au sein de services de renseignement, mais aussi avec le monde académique, avec le monde extérieur. Il ne reste pas enfermé. L'Académie du Rance donne des prix, s'ouvre sur les fictions. On voit qu'aujourd'hui, il y a la volonté de créer une communauté là où il n'y avait avant que des baronnies, que des individus, parfois, si on doit être vraiment dans l'atome. Et je crois que c'est ça qui donne corps finalement à l'action depuis 10 ans du CNR. C'est aussi une action de transparence avec les citoyens et donc d'acceptabilité sociale de ce que font les services de renseignement avec une loi sur le renseignement et des débats qui sont de plus en plus publics. C'est aussi un rapport sans doute très compliqué avec les présidents de la République qui voient bien aussi cette concurrence. Des personnes qu'on a interviewées en faisant cet ouvrage nous disaient « Ok, on a réformé les services de renseignement, mais à la fin de la fin, CNN m'informe très rapidement de ce qui se passe à la frontière ukrainienne. Et de deux, c'est quand même très compliqué de faire en sorte que des chiens de chasse à qui on a appris à chasser tout seul chassent en meute parce qu'ils apprécient tous vous ramener la proie à vos pieds. » Alors oui, c'est dur. Oui, c'est compliqué et c'est pas évident de faire changer les cultures qui sont inscrites depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, il y a des services de renseignement qui dialoguent de façon vraiment réelle, plus entre eux. Parfois, oui, à la faveur de la pression du CNR qui dit « si vous ne dialoguez pas, je mets tous les moyens ensemble et on fera une agence technique du renseignement sur le modèle de la NSA ou du GCHQ en Angleterre. » Et donc, il faut qu'il y ait un politique, un conseiller du politique qui soit là pour faire en sorte que les vieilles habitudes ne viennent pas, ne reviennent pas. Ça passe par du bluff, des artifices, des notes qui sont écrites mais qui ne prennent pas application, par des coups de pression avec des convocations. Mais à la fin de la fin, ce mécano institutionnel s'inscrit dans le temps. Il existe, il perdure. C'est très compliqué de le faire disparaître. Est-ce qu'il faut l'améliorer ? Sans doute. Et d'ailleurs, on en parle. Des CNR le disent. Hein. Au-delà du modèle avec les États-Unis, est-ce qu'il n'y aurait pas la création d'un secrétariat général au renseignement ? L'office, le bureau du DNI aux États-Unis, c'est de nombreuses personnes qui travaillent quotidiennement pour le DNI, qui font des analyses, etc. En France, c'est encore trop réduit. Est-ce qu'on pourrait pas aussi lui donner une capacité d'investigation budgétaire, des audits ? Est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte aussi que une évolution de carrière dans le monde du renseignement passe obligatoirement par un passage dans un autre ministère, dans un autre service, pour s'approprier d'autres outils et d'autres.
Ouais, mais vous voyez, c'est intéressant parce que c'est effectivement vous décrivez en fait la logique organisationnelle et ce que vous nous décrivez en fait c'est un changement culturel à l'échelle de tout le monde du renseignement dont on comprend bien que ça prenne du temps. Mais justement, c'est quelle est l'acceptabilité de ça quand ça se percute avec des échecs qui sont effectivement beaucoup plus visibles que les succès et que les transformations de long terme, quoi.
Mais l'action de l'État et celle de la coordination, de la mutualisation, ces actions sont le long terme. Et évidemment, à chaque crise, chaque CNR le prend pour lui. Et évidemment, un sentiment d'échec. Mais si on prend Claude Guéant, et qui raconte du coup dans cet ouvrage, 95, il est dans une salle, les attentats, et il essaie de faire en sorte que les services de renseignement parlent, échangent. Il est lui...
Directeur de la police nationale à l'époque.
Il est, exactement, il accompagne du coup, il est à la police nationale, et pas d'infos. Et à la fin de la réunion, il y a quelqu'un de la DGSE qui vient le voir en disant « J'ai pas pu vous le dire là devant tout le monde, mais je tiens à vous dire » et qui commence à partager avec lui, et juste avec lui, des informations. Qui l'obligera même à avoir deux cahiers, un sur les notes pour tous les autres services et un autre pour juste ceux de la DGSE. Et donc, depuis 1995, il y a quand même une évolution, un partage, une culture qui s'inscrit aussi dans nos inconscients collectifs et qui fonctionne. Évidemment, chaque CNR a été heurté et auditionné après. On a demandé des comptes. La commission Fenech Pietrasanta a voulu comprendre ce qui s'est passé après les attentats de 2015. Et donc, le CNR est tenu pour responsable. Mais cette fonction permet aussi de faire des retours d'expérience, d'essayer de faire en sorte que ce qui fonctionne bien dans une agence peut fonctionner bien dans une autre, d'avoir aussi un acteur qui est proche du président et qui peut avoir ce retour réflexif. Ça ne sera jamais un acteur du monde opérationnel. Et il ne faut pas que ça le soit. C'est les agences du renseignement qui font du renseignement. Mais lui, il doit être cette figure au-dessus qui doit permettre au dispositif de s'améliorer et de faire en sorte qu'il soit plus efficace par des retours d'expérience, par des analyses à froid et aussi des coordinations à chaud.
Merci beaucoup, Alexandre Papa-Emmanuel.
Merci pour votre invitation.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Pour ceux que tout cet univers intéresse, je signale au passage une fiction radiophonique qui a quelques mois maintenant, mais que j'ai découvert récemment, produite sur France Culture, qui s'appelle Projet Orlov, qui se situe dans cet univers un peu interlope des lieux de pouvoir et des services de renseignement, et qui est vraiment extrêmement bien faite, que je recommande donc sans modération. Je vous rappelle par ailleurs que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, vous pouvez nous les envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, notez et commentez le podcast, notamment sur iTunes, ça aide à le faire connaître et ça nous aide à avoir des retours sur la manière dont vous voudriez le voir évoluer. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.